Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Les Prix littéraires, une série de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a ce jour de gloire et ces effluves de laurier pour Éric Vuillard et ce mois de novembre parisien sur lequel s'abattent les prix littéraires et les premières pluies d'automne. Ces noms devenus familiers et qui sont la bannière d'on ne sait plus bien quoi. Médicis, Renaudot, Académie française, Interalliés, Femina, Décembre et Goncourt. Comme un refrain qui enfièvre le petit monde de l'édition et des médias culturels et qui n'a pas toujours grand-chose à voir avec la littérature. Alors on peut comprendre certains auteurs qui crachent dans une soupe qu'ils trouvent bien amère, s'étonner de ces lecteurs qui sont prêts à tout pour devenir jurés, et on peut aussi aller voir ailleurs dans les coulisses d'un prix qui se veut sulfureux. Alors pour commencer, les personnages. Une éditrice qui voulait un prix pour sa maison d'édition, un éditeur revenu des manœuvres et des stratégies, une libraire affolée par les premiers romans qui finiront au pilon, une éditrice lucide, une auteure qui se remet mal de son concours, un auteur intègre et deux personnages imaginaires. Ensuite le décor, une librairie de la Butte Montmartre, des tables où sont empilés les romans de la rentrée, des bureaux où l'on croise les doigts, un appartement hors du temps et un studio de la maison de la radio. Aujourd'hui, premier épisode, on est en France, aucun doute, on est à Paris, la rentrée littéraire bat son plein.
On a fait exprès de démarrer un peu avant l'ouverture. Un petit coup de balai, oui. Vous voyez, il y a balai. Ça va bien, Olivia?
Va,
bonjour.
Hier, il y avait une vraie pente.
Ouais. Oh.
J'espère que...
Pour les touristes, on est un petit peu comme des... Comme il n'y a plus beaucoup de libraires, oui, comme ça, aux États-Unis, tout. Alors maintenant, ils prennent des photos comme si on était au zoo. Comme dit Muret. On va devenir une sorte de grand centre de... Grand centre de loisirs, parce qu'ils font des photos, les touristes, des livres dans une librairie. Et voilà,
génial, je suis sortie.
C'est comme si elle avait fait d'enlever l'antipole du vélo, quoi.
La rentrée à tout prix. Stéphane Bonnefoy, Guillaume Baldi.
À la librairie des Abbesses, voilà, on fait une sélection sur une rentrée de 600 romans. Je dois en présenter à peu près 300, 350. J'ai un soin à ne pas essayer qu'il y ait cet effet pour les lecteurs qui entrent ici, un effet de prodigalité, mais au contraire de choix électif.
Marie-Rose Guarnieri.
Et un savant... une savante orchestration de livres de gens inconnus à côté de gens connus. Enfin voilà, c'est une sorte. Là aussi, c'est une composition, une table de libraire. Mais en tout cas, je fais attention qu'il n'y ait pas, pour les gens, que ça soit très reposant et que c'est le fruit d'un long travail de 5 mois que vous voyez sur la table. Donc vous devez orchestrer une table pour que le lecteur soit en contact avec les livres, parce que les livres, c'est un objet et un être, ils vous parlent. Les livres parlent. Il faut les laisser parler. Il ne faut pas les empêcher de parler. Mais par contre, les gens viennent aussi dans une rentrée littéraire, dans une librairie comme la mienne, parce que ce n'est pas du tout un espèce de gros bazar où on n'y comprend plus rien, on ne sait plus quoi choisir et tout. On est comme trop gavé presque. Et comme les gens sont déjà assaillis d'informations et ils en ont trop, il faut essayer justement de travailler dans une sorte de moment posé, choisi, électif et concentré au contraire. Alors on fait une vitrine déjà pour dire nos choix. Où nous trouvons, nous, dans la rentrée. Où est-ce qu'on est, cette librairie, dans son travail? Où on en est, dans cette rentrée? Qu'est-ce qu'on a choisi? Et on ne dit pas que voilà, c'est le meilleur choix. On dit, voilà, c'est le nôtre, avec nos limites. Il y a des choses qu'on ne sait pas lire. Voilà. Donc, voilà. Et après, je mets des petits bandeaux parce qu'il y a pour des livres que je trouve vraiment que j'aimerais que les clients ne loupent pas. Bon, par exemple, je voudrais vraiment que Yvan Jablanka soit lu par les plus grands nombres. Il y a le livre de Luc Lang, Au commencement de septième jour, qui est éblouissant aussi dans son œuvre. Je trouve que c'est un livre très, très réussi, épatant. Il y a le livre de Lynn Papin, qui est la vraie surprise de cette rentrée. C'est une jeune écrivain. Et vous voyez, je mets Mémoire de fille d'Annie Ernaux à côté d'Evelyne Papin, l'éveil, parce qu'il s'agit du premier amour pour les deux. Donc voilà, j'essaie de faire des petites correspondances, des échos entre les livres. Alors j'ai compris que ce métier, c'était un métier d'impuissance, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas tout faire. Sur une année, c'est un énorme arrivage. Et il faut, au début, c'est comme un flot. Il faut se dire, bon, comment je vais pouvoir nager ? Là aussi, c'est très intimidant. C'est-à-dire, comment je vais faire pour nager et lire un certain nombre de choses ? Donc, il faut beaucoup s'entourer. Ma névrose, à moi, de libraire, c'est quel est le livre que je n'ai pas lu, que je n'ai pas vu ? Et puis, quel est le livre que je ne vais pas défendre ? J'élimine. D'abord, j'élimine.
Oh, c'est pas grave, c'est pas grave.
Bonjour, comment ça va ?
Marion Mazoric, vous dirigez les éditions Au Diable Vauvert. Quel regard vous portez sur la rentrée littéraire ?
La rentrée littéraire, le regard que je porte sur cette période, c'est le regard plus qu'attentif de quelqu'un qui joue quand même une grosse, grosse partie de son chiffre d'affaires annuel. Bon, sachant qu'on est un éditeur de littérature, hein, pas de... Donc évidemment, il y a deux rentrées littéraires dans l'année, en septembre la grande et puis en janvier la petite. Et bah, on y place des premiers romans, les grands auteurs, enfin les auteurs pour lesquels on pense qu'on peut prétendre à justement prix littéraire. Donc il faut savoir que c'est un gros enjeu et un très gros investissement. Les livres de la rentrée sont envoyés à peu près entre les épreuves et les livres imprimés. À peu près chaque titre a j'ai honte de le dire, mais entre 800 et 1000 exemplaires gratuits qui comprennent en fait pas seulement les journalistes, les libraires, etc., mais toutes les centrales de vente, donc les culturales et Leclerc, enfin tous ceux qui agissent avec des sélections d'entrée, et également les prix littéraires et les sélections des grands médias. Donc il y a un investissement qui est extrêmement cher et qui fait qu'on a une attention, on a besoin d'un retour sur investissement bien sûr.
Tu vas conseiller quel livre pour la rentrée littéraire ?
Et je ne sais pas, j'en ai lu 12 sur les 560. Je vais appeler des librairies, ils me diront ce qui se vend le mieux.
Moi, avec mon rédac-chef, on a décidé de diviser la tâche. Comme on est 8 avec les pigistes, ça nous fait plus que 70 livres chacun.
Non, mais c'est courageux.
J'en ai lu 31 pendant les vacances. Il m'en reste 39.
Mais l'intérêt, c'est surtout de savoir qui va avoir le Goncourt.
Ça, je n'en sais rien. Le rédac-chef m'a demandé de réfléchir au supplément Beau Livre de décembre. Il veut trouver de nouveaux angles, rafraîchir la maquette. Je lis comme un zombie.
Ne te plains pas, c'est un beau métier.
Ouais. Pour les livres de Noël, je vais surtout regarder les images. Ça me reposera un peu avant d'attaquer la rentrée littéraire de janvier. On annonce une fournée de 500 nouveautés. Et avec les fêtes de fin d'année et les restrictions budgétaires, on devra se les partager en 5 cette fois. Je prendrai quelques jours de congé en mars. Il y a un petit creux avant le hors-série des livres de l'été. L'année prochaine, je demanderai un stagiaire. Sinon, j'arriverai jamais à mettre un terme à mon roman.
Tu écris un nouveau livre ?
Mais oui, pour la prochaine rentrée littéraire.
Il y avait des livres qui étaient publiés, même les éditeurs ne savaient même pas eux-mêmes, ils tentaient des coups, quoi. C'était des livres qui répétaient ce qui avait déjà été fait, c'était des contrefaçons littéraires, en disant « on va voir, ça peut marcher ». Vous voyez, tous ces livres-là, là, qui paraissaient pendant ces rentrées, « oh oui, ça c'est un sujet qui intéresse ». Vous voyez, des livres du mainstream, quoi, ce qu'on appelle le mainstream littéraire, là. C'est-à-dire des sujets qui ont déjà été faits 200 fois, où on parle de sa mère, où on parle de sa famille, on parle de sa d'adultère, sans moyens littéraires tellement, mais on se dit « on sait jamais, oh puis elle connaît telle et telle, ça peut marcher, puis c'est la copine de machin. Bon, il y avait des livres comme ça qui apparaissaient au milieu de ces rentrées. Donc ces livres-là, les éditeurs ont compris que les libraires ne paieraient plus cette production-là, parce que c'était nous qui la financions, vous voyez, quand les gens étaient à l'office, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'en avoir au moins un d'une production, c'était des livres qui n'avaient aucun intérêt littéraire et qui ne rencontraient aucun lecteur. Et ces livres-là, certains éditeurs ont resserré leur production et ont arrêté de faire ces livres, ce qu'on appelle les moyennes eaux, là. Ces livres qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Il y a un resserrement vers la qualité qui s'est produit. Donc la crise a eu un bon effet de ce côté-là, de ce point de vue-là. Qu'on tente des coups, ça c'est normal. Hein, l'éditeur, il cherche à faire du... C'est un commerçant aussi.
Nous, par exemple, on était monté à un peu plus de 30 titres. On est redescendu depuis 2 ans à 25 titres, qui est notre étiage, sachant que c'est une période où il faut travailler plus pour vendre autant, ou voire un peu moins. Donc je crois que tous les éditeurs, face à cette réalité économique qui atteint, je crois, le marché français, hein, et ont réduit leur production pour travailler plus sur chaque titre. Ce qui fait qu'on est effectivement dans une année, on a 560 titres, il y a eu des années, on en avait 760, voire 800. Alors maintenant, on peut avoir des ventes décevantes. Il faut savoir que les ventes de la littérature, je parle pas des débutants, parce qu'un premier roman, ça peut faire 200 ou 500 exemplaires très couramment, mais un roman de littérature d'un auteur reconnu peut aller entre 2000 et on va dire 7000 exemplaires ou 5000. Il fera plus si justement il y a quelques prix, il y a des grands médias, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est à peu près l'étiage moyen des ventes de littérature en France. L'édition est un secteur qui dégage très peu de marge. Que vous soyez une grosse majeure ou que vous soyez un indépendant comme le Diable au Vert, vous dégagez très peu de marge. En gros, nos bénéfices viennent de quelques titres dans l'année qui vont financer le travail d'une année. Alors, on a eu un prix de Flore pour Nicolas Rey à la création de la maison. Puis ensuite, on a eu de nombreux prix, mais jamais de prix d'automne. On a eu quelques sélections. Pour moi, c'est un manque à gagner. Moi, si je continue à publier en septembre-octobre pour les prix, c'est parce que ça fait partie de mon travail de leur obtenir des prix, c'est-à-dire la reconnaissance que les écrivains méritent quand ils la méritent. Ah non, ne pas publier parce qu'il y a trop de livres chez les autres. Alors, vous n'êtes plus éditeur si vous faites ça.
C'est l'idée, c'est comme une martingale. C'est-à-dire, les éditeurs se disent, allez, je balance des tas d'auteurs. Alors, évidemment, les plus solides comme Gallimard en balancent plein. En se disant, bon, bah, dans le tas, il y en a plein qui vont pas survivre. Mais il y aura le jackpot peut-être quelque part.
Sylvie Ducat.
Donc, c'est un peu ça. C'est jeter du nombre et se dire que dans le tas, il y en aura un qui sortira. Puisqu'évidemment, ce qui est scandaleux, c'est la poignée d'auteurs dont on parle. On doit parler de 50 titres à peu près dans la rentrée littéraire. Pour combien de prix littéraires qu'ils font vendre bon, allez, on va dire 6. Avec le jeu des sélections, on va dire il y a 20-25 livres dont on va parler beaucoup, maximum. Sur les 560 de départ. Ou sur les 363, si je raisonne que sur les livres français. C'est complètement monstrueux, ce décalage de chiffres.
On publie plus, mais avec des tirages moyens qui sont
oui.
À la baisse.
Ça, c'est l'effet de la surproduction et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Si vous produisez trop, vous vendez moins par ouvrage, donc vous êtes tenté de monter le prix du livre, parce que les prix flambent aussi, les livres deviennent de plus en plus chers. Donc on est tenté à nouveau de produire encore plus. Bon, ça, c'est ce phénomène infernal qui est complètement déraisonnable. Hein. Ça, c'est tout à fait nocif et à la littérature et à la lecture, quoi. Parce que du coup, on est perdu dans une masse, dans une pléthore, et on a besoin donc de tri, de sélection, et tout le monde est perdu. Et l'autre phénomène qui est absolument étonnant et paradoxal, la rentrée littéraire, c'est 5% de la production littéraire annuelle. C'est-à-dire, vous voyez, le buzz et la surmédiatisation que l'on fait sur quelque chose qui représente 5% d'une production annuelle. Ça a l'air pas énorme. Mais les enjeux, eux, sont énormes.
En termes de chiffre d'affaires pour les éditeurs ?
Ah bah oui. Ah bah oui. Avoir, si le but, est, au bout du compte, c'est avoir un prix Goncourt, c'est des millions d'euros. Hein, parce qu'il ne faut pas compter que l'édition courante, il faut compter les éditions dérivées, le passage en poche, les traductions, etc. C'est énorme. C'est des chiffres énormes. Donc ça vaut le coup de sacrifier quelques livres qui vont être pilonnés au bout de 3 mois. Bon, voilà. Le plus dramatique, je pense, dans la rentrée littéraire, c'est pour les primo-romanciers, les auteurs de premiers romans. Il y en a 75 cette année. Je ne sais pas de combien on va en parler, mais si on parle d'une dizaine, ça sera miraculeux. J'ai toujours une pensée très émue pour les 65 qui sont envoyés au casse-pipe. Le premier livre, on sait très bien que c'est un livre où on met ses tripes. Il y a 65 livres qui vont être des livres mort-nés, dont on ne parlera pas et qui seront pilonnés dans 3 mois.
Je n'ai pas reçu ton dernier livre.
Lequel ?
Désolé, je me souviens plus du titre.
Le dernier ? Celui qui est sorti il y a 4 mois ?
Non, un plus récent. Tu n'en as pas publié un autre depuis ?
Eh non.
Ça doit être celui-là, alors. Tu peux m'en faire envoyer un exemplaire ? Je vais voir si je peux encore en parler.
J'en ai plus.
Épuisé ? Bravo !
Eh non. Pilonné.
Ah, il ne s'est pas vendu ?
Si, très bien, à 802 exemplaires.
En effet, je l'ai vu dans toutes les librairies, belle mise en place. Vous en aviez tiré combien ?
À peine 73 000.
Et oui, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour bâtir un succès.
Nous, c'est pas le chiffre qui compte, c'est les textes. Donc on publie les textes qu'on a estimés
Françoise Nyssen,
être prêts.
Acte Sud.
Et aussi, il faut pas le négliger, puisqu'il y a ce phénomène de rentrée, il faut des textes qui soient capables d'affronter cette rentrée, parce que c'est un peu une bousculade, c'est pas facile, c'est parfois même déstabilisant pour des auteurs qui, à partir du moment où ils sont dans cette rentrée avec toute l'aura que ça a et le poids que ça représente, peuvent vivre des déceptions, puisque finalement, il y aura qu'un concours, il y aura que, à chaque prix et juré, il y aura qu'un lauréat, puisqu'on est dans ce système-là, et qu'après, on va oublier les autres. Donc, c'est pas un moment facile. Alors, si nous, on l'organise en fonction des textes et de leurs auteurs, et pas en fonction d'un nombre idéal.
Tous les grands éditeurs à qui on a parlé, tous nous disent qu'ils construisent leur entrée littéraire en fonction des livres qui sont prêts. Enfin bon, on nous explique qu'il n'y a pas de stratégie particulière.
Ça, c'est la langue de bois éditoriale. C'est absolument faux. C'est évident. Il n'y a qu'à regarder comment certains auteurs qui sont plus pressentis pour des prix littéraires, eux, vont constamment, toutes les années ou tous les deux ans à peu près, sortir leurs livres en septembre. Ça veut dire qu'ils sont vraiment... Non, c'est des gestions d'écuries d'auteurs. Hein. Les éditeurs, les gros éditeurs, c'est ça. Les écuries d'auteurs, il y a ceux qui vont sortir en septembre, les autres qui vont sortir en janvier, etc. Non, faut arrêter. Mais de toute façon, c'est... Les prix littéraires à la semaine de rentrée, ça a été créé de toutes pièces par les éditeurs. Donc c'est pas eux qui vont vous dire qu'ils ont inventé une manne, enfin un système qui leur apporte beaucoup d'argent. Parce que le prix Goncourt, par exemple, qui a été créé en 1903, enfin le premier prix a été remis en 1903, c'est quoi ? C'est des cadras qui font partie d'une avant-garde qui s'appelle Naturaliste. Ils sont dans un bistrot, c'est pas encore Drouan et toute la clique, et tout les Sunlight. C'est voilà, des jeunes auteurs donc qui se réunissent, qui donnent leur prix. Et très vite, ces éditeurs, et là, parce que c'est un peu médiatisé, enfin il y a quelques journaux qui commencent à s'intéresser à ça, et qui vont en faire un événement. Il y a une phrase de Bernard Grasset, on est dans les années 20, je vais faire de la littérature un événement. Et Bernard Grasset, c'est le grand faiseur de prix devant Éternel, grand rival de Gaston Gallimard. C'est les deux qui vont être sur le terrain de cette manne qu'ils inventent finalement. Le prix va très vite être vendeur et très vite c'est la barre des 100 000 exemplaires, ce qui est énorme dans les années 20. Les années 20, un livre ça se vend à quelques centaines d'exemplaires. Là tout d'un coup, 100 000.
Il y a encore une liste qui est sortie il y a deux jours ou hier, et c'est un prix où jamais ils ont regardé, ils ont mis en avant un livre publié par la maison, ce qui est totalement et hautement fou, quoi, improbable, c'est pas possible. La qualité est au rendez-vous quand même, puisque c'est une maison après des années où on n'a pas eu objectivement le prix Goncourt. On voit bien que à la faveur d'un jury qui s'est renouvelé, qui s'est rapproché de l'idée de la lecture au sens propre du terme, depuis 2004, on a eu trois Goncourt avec des jeunes auteurs qu'on a découverts. Godet, Ferrari et Hénard, on ne peut que être fiers de ces auteurs-là. Donc c'est très important. Et puis il y a un aspect qui n'est pas du tout négligeable, c'est aussi cet aspect économique qui rentre en ligne de compte pour l'auteur, parce que l'auteur, il espère qu'une chose, c'est de vivre de sa plume. Et un prix change la donne, hein, au niveau économique, très clairement. Les ventes peuvent les multiplier par 100. C'est énorme. Hein. Je pense que Laurent Godet, bon, il avait déjà eu le Goncourt des lycéens, mais le premier roman de Laurent qu'on avait écrit, on n'avait pas dû faire plus que quelques milliers. Et le Goncourt, c'est... On fait plus de 500 000, on peut s'approcher du million, etc. Donc ça change la donne. Ça change la donne aussi pour la maison d'édition. Et si on veut continuer à faire ce travail-là en toute indépendance, eh bien, il faut qu'on soit équilibré économiquement et qu'on gagne de l'argent. Sinon, on doit s'appuyer sur d'autres, sur des banques, sur des capital risqueurs, etc. Donc L'économie est très très importante, elle est nécessaire à notre indépendance. L'activité d'une maison d'édition, c'est une activité qui n'est absolument pas subventionnée. On n'a pas d'aide, comme il peut y avoir dans l'agriculture, par exemple. C'est un secteur hyper non subventionné.
Actes Sud, c'est aussi les gros best-sellers, c'est les grosses machineries de best-sellers, style Millennium ou les polars scandinaves. Et là, qui leur apportent mais énormément d'argent. C'est une maison qui a, je pense, je ne connais pas leur chiffre d'affaires exact et leur richesse, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont de la taille de Gallimard. Si ce n'est plus. Actes Sud, c'est quand même une maison d'auteurs francophones ou de littérature traduite au départ. Hein. Bernissen, c'est ça. Hein. Il y a un repositionnement sur la littérature française qui correspond aux ambitions d'Actes Sud d'être dans la course au prix. Et très vite, elle y est, cette maison.
Ça veut dire que pour une petite maison, moyenne maison même, accéder aux listes des grands prix littéraires est impossible ?
Pas impossible, mais difficile. Difficile. Pas impossible parce que c'est... Alors, pour que Gali Grasseuil ou Gali Gras Albin Actes Sud fonctionne, il faut qu'il y ait... il faut que les juristes rachètent de temps en temps. Mais ça reste encore très marginal.
C'est-à-dire qu'il faut être fort économiquement pour pouvoir...
Il faut quand même avoir les reins assez solides pour mettre en place une infrastructure qui est quand même énorme. Hein. C'est déplacer en masse de la marchandise d'un éditeur à des points de vente. Ça veut dire que... Alors, je donne toujours l'exemple de Ballant. Je crois que c'était en 1977, qui se retrouve avec un prix littéraire qui n'était pas du tout prévu, celui de Frédéric Tristan pour Les Égarés, qui joue les outsiders au Goncourt, et prix de course, quelqu'un qui a dû mettre énormément d'argent pour avoir la logistique suffisante pour mettre sous presse des livres qu'il n'avait pas prévu de tirer à des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires, et puis de mettre en place toute la logistique pour qu'on les trouve partout en France, il s'en est pas relevé. Aujourd'hui, ça doit être 8 000 exemplaires, 10 000 exemplaires maximum. C'est déjà un succès de librairie. Donc, vous imaginez 70 000, 90 000 exemplaires, même pour un prix comme un Renaudot ou un Médicis, c'est énorme. Le Goncourt, c'est au moins 300 000 et plus. Le Goncourt a vraiment un statut à part. C'est une industrie du best-seller, c'est une économie du best-seller, les prix.
Hubert Nissen, votre père disait couramment que les prix littéraires, c'était pas son affaire, qu'il ne fallait pas s'en soucier. Vous, il y a une dizaine d'années, vous avez tapé du poing, vous êtes allé voir les jurys du prix Goncourt en disant « mais comment ça se fait que Actes Sud n'ait jamais eu de prix ?» C'est une stratégie qui visiblement a été payante.
Alors très clairement, ce n'est pas une stratégie. Et c'est vrai qu'à la faveur d'une prise à mon bureau à Arles, par la correspondante de FR3, ou je ne sais plus qui était au moment de l'annonce des prix. Et je sais que j'ai dit un truc comme ça en direct. On était dans ce qu'on appelle la shortlist, avec un livre de Pierrette Fleutot, je m'en souviens très bien, qui avait été rajouté à la dernière minute. Et puis, boum, c'était pas elle. Donc, je dis, le balancier, c'est sans doute le plus fréquemment une maison, un livre publié chez Gallimard, un livre publié au Seuil ou Grasset. Boum, boum. Et puis, bon, c'est tombé de ce côté-là. Mais nous, hop. Ça tombe jamais sur nous. Et c'est quand même énervant parce qu'on publie quand même des bons bouquins et l'enjeu est énorme et nous on aimerait bien, etc. C'est vrai que l'année suivante on a eu le prix Goncourt avec Laurent Godet. Et non, on ne contacte pas les jurys, non. Enfin, en ce qui me concerne, on ne passe pas. On s'est souvent posé la question avec Bertrand. C'est pas notre job de faire ça. On n'est pas en train, on n'a pas une stratégie vis-à-vis des gens. J'en connais. On a des bonnes relations. Mais on n'est pas dans un relationnel pour dire il faut absolument, etc. On essaye de faire notre travail le plus sérieusement possible, de présenter nos livres, de les envoyer, de les argumenter. Et puis après, ils font leur boulot. Très clairement. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que et je suis extrêmement contente que Majid Cherfi soit là, sur la première liste du Goncourt. Je ne parle pas du Renaudot, on a aucun livre. C'est presque, ça en devient presque drôle, on va dire, parce que c'est stupéfiant. Voilà. Mais il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas un travail. On s'assure juste qu'ils ont bien les livres et on espère qu'ils les ont lus, regardés, qu'ils ont eu attention à la chose indépendamment de leur réseau. Voilà, on ne fait pas autre chose, on n'a pas une stratégie.
Grac, C'est quand même d'un autre niveau que Houellebecq, tu es d'accord?
Je sais pas, j'ai jamais pu lire plus de 10 pages d'un Balcon en forêt. Alors que Houellebecq...
Bah quoi, Houellebecq?
Bah, ça se lit tout seul. T'as jamais essayé?
Je m'y refuse. Moi, j'aime le langage travaillé, poétique, métaphysique.
Et Mélinoton, c'est aussi poétique. Et puis quel personnage? J'aimerais bien tous les deux, d'ailleurs.
Qui ça?
Houellebecq et Nothomb.
Je me demande parfois comment on peut être amis.
Parce qu'on aime tous les deux les livres, non?
Non, moi j'aime les livres. Toi, tu aimes les écrivains. Tu achètes un livre parce que l'auteur te plaît. Parce qu'il parle bien ou que le sujet t'intéresse.
Il n'y a pas de mal à ça.
Moi, je recherche avant tout la singularité du style. L'exigence littéraire. Lire n'est pas qu'une question de plaisir. Il faut parfois en baver, aller à l'encontre de sa propre voix. Et je me fous de savoir ce que pense celui qui l'a écrit.
On peut être sensible aux personnages médiatiques et aimer ses livres.
Non. L'un influence fatalement l'autre. En tant que lecteur, tu dois choisir ton camp. La vraie littérature est en danger. La lecture pour tous. La démocratisation du livre. Bernard Pivot. Ils l'ont tué à petit feu.
Diable.
Oui, désolé Henri. La situation est maintenant trop grave. Le mieux est de ne plus nous voir.
Et cette année, j'ai l'impression que c'est très calme, c'est très ennuyeux, on se barbe, il ne va rien se passer. Les dés sont pipés de toute façon, on sait bien que ce n'est pas les jurés qui décident quoi que ce soit. Et là, il y a la pression médiatique, c'est la presse maintenant, je crois, la critique qui fait les prix littéraires. C'est une nouveauté, c'est la vraie nouveauté à mes yeux depuis quelques années.
Raphaël Saura.
Et là, quand je vois tous les articles favorables sur un livre illisible de Yasmina Reza, je me dis qu'elle devrait avoir le concours. Enfin, elle l'a. Ça, c'est mon sentiment, là, à la fois de m'ennuyer, puis de m'amuser un petit peu, puisque c'est quand même amusant de voir cette agitation dans le marigot littéraire. Mais je ne prends pas au sérieux, je pense que la littérature n'a rien à voir avec tout ça.
Vous avez conduit en tant qu'éditeur Michel Houellebecq 3 fois au Goncourt.
Oui, je l'ai conduit, oui. Je l'ai conduit à l'échec. On sort un livre qui n'est pas reçu unanimement comme un chef-d'œuvre, qui pour moi est son meilleur livre, qui est Les particules élémentaires. À ce moment-là, le petit milieu s'agit, blablabla, ça commence à gesticuler dans tous les coins, les pour, les contre. Et là, je me dis, c'est gagné. Et puis, au dernier moment, Gallimard sort de Fagot, une malheureuse romancière, qui a le Goncourt, qui depuis est rentrée à l'Académie Goncourt, d'ailleurs. Et moi, à l'époque, j'étais encore plein d'énergie. Je fulmine contre ça. Houellebecq, à sa manière bizarre, fulmine aussi. On fulmine tous. Et la chose géniale, c'est que Nourricier, qui était le chef du jeu dans l'Académie Goncourt, le soir même, dit bah, c'est Houellebecq qui aurait dû avoir le Goncourt, plutôt que Machine. Donc, je ne cite pas le nom, elle se reconnaîtra, la pauvre. Et elle avait la place du mort. Hein. Pour moi, c'est ça, la place du mort. Depuis, on n'en parle pas tellement, même si elle est rentrée à l'Académie Goncourt, alors que Houellebecq, on en parle de plus en plus. Donc ça, c'est le premier truc. On était passé tout près du prix Goncourt. Et moi, à l'époque, je pensais encore que c'était important, même pour un écrivain, d'avoir le prix Goncourt. Bon, maintenant, j'y crois plus du tout. Et la deuxième tentative, c'est un autre livre que moi je trouve tout à fait intéressant aussi, Plateforme, qui alors là, il s'est passé des choses incroyables autour de ce livre. On a eu un procès avec la mosquée de Paris, bon, pour des propos, d'ailleurs c'était pas dans le livre, mais que Houellebecq avait tenu dans le journal de Dassouline, Lire. Et puis un procès avec la Mecque. Alors quand un auteur a un procès avec la Mecque et avec la mosquée de Paris, le Goncourt c'est un peu cuit. Donc, il a été liquidé, il a été viré de la liste très très vite. Troisième tentative, alors là, cette fois j'y croyais vraiment, tout le monde y croyait vraiment. On a décidé de quitter Flammarion, d'aller chez un éditeur concurrent qui était Fayard. Il se trouve que le patron de Fayard était un vieil ami à moi, qu'on avait commencé ensemble au Seuil, Claude Durand. Et Durand, qui n'avait pas tellement réussi en littérature française, était très content de voir l'écrivain vedette français arriver chez lui. Et moi, j'étais content de le suivre. Et Houellebecq avait l'air très content aussi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est quand même un truc assez étonnant, c'est que Fasquelle est sorti du bois, alors qu'il était à la retraite, et il a manœuvré pour que ce ne soit pas Fayard, parce qu'il y avait une vieille haine entre Grasset et Fayard, entre Fasquelle et Durand. Le résultat des courses, c'est qu'ils ont sorti au dernier moment Veillargans, qui a terminé à toute vitesse un roman extrêmement médiocre, 3 jours chez ma mère, qui a eu le prix Goncourt et qui a qui est passé devant Houellebecq. C'est comme dans une course de chevaux truqués. Il y a un favori, puis à un moment donné, il se passe quelque chose. Et voilà. Donc, c'était quand même étonnant cette fois que ça ne marche pas. Ce que je vais raconter sur Fasquelle et Durand, c'est une vieille histoire que tout le monde avait oubliée, sauf eux. Et Fasquelle s'en était souvenu. Qu'il y avait pourquoi est-ce qu'il se haïssait? Parce qu'à un moment donné, quand il avait été question de prendre la direction de Grasset, Durand était concurrent et Fasquelle l'avait emporté. Donc, il y a eu une bagarre entre eux et cette bagarre se perpétuait. Et les prioritaires sont une bonne occasion de perpétuer les querelles. Du coup, Houellebecq, intelligemment, est rentré dans le rang. Il est passé chez Flammarion. Et là, tout le monde, il n'y avait plus de combattants, tout le monde était fatigué. Donc, il a eu le concours, finalement, faute de vraie concurrence. Donc, voilà l'expérience que j'ai vécue avec Houellebecq.
C'est un alibi, l'écrivain, dans tout ça, vous savez, dans ce système. Moi, je crois, hein, les écrivains, quand ils disent, moi, ça se joue par-dessus ma tête. Bon, je sais que je suis en course pour tel et tel jury, mais moi, je décide de rien. Je pense qu'ils ont globalement, je ne suis pas dans les arcanes, hein, je pense qu'ils ont globalement raison. Ils sont un alibi dans un système où c'est l'éditeur qui, lui, fait les tractations. Et je me rappelle d'Yves Berger me racontant comment les grandes années Grasset, où lui, il était faiseur de prix, hein, qui me racontait, bon, en m'interdisant, bien sûr, de l'écrire dans ma thèse, que je réalisais à l'époque, combien ça coûtait à Grasset, les déjeuners, les vacances, les ceci, cela pour acheter les jurys. C'était hallucinant, les sommes. Hein. Donc, voilà.
Vous vous souvenez, Pascal Rose, de ce jour de novembre 1996 où vous avez reçu le prix Goncourt pour Chasseur Zéro?
Comment l'oublier? Oui, je m'en souviens très bien. Vous voulez que je raconte? Oui? Alors, en fait, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. L'attaché de presse m'avait dit, écoute, tu viens chez Albin Michel, parce que si jamais tu as le bon cours, il faudra qu'on file immédiatement rencontrer les journalistes, donc je préfère que tu sois là. On a mis un écran de télévision dans la salle de presse et on a ouvert la télévision. Et à cette époque-là, le journal d'Antenne 2 débutait par l'annonce du prix Goncourt. On voyait sortir le secrétaire, qui était Didier Decoing, je crois, et qui a annoncé que le prix Goncourt était attribué au Chasseur Zéro de Pascal Rose. Alors là, je ne sais pas, j'ai été comme assommée. Mais ça a été le début d'une grande journée à rencontrer... je ne sais plus, des journalistes, aller faire des émissions, et le soir, un grand cocktail chez Albin Michel. Voilà. Je suis convaincue que j'ai eu le Goncourt par la grâce du... Bah, allons, disons-le, de François Nourricier. Parce qu'il me l'a raconté d'ailleurs après coup. Il a lu ce livre et il a eu un véritable coup de cœur pour le livre. Bon, j'ai pas... Il faut dire les choses comme elles sont. Je crois absolument pas qu'il y ait eu tractation. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi il y aurait eu tractation sur mon livre. Mais il m'a dit lui-même qu'il était pendant l'été à Lourmarin chez lui. Il avait sa pile de bouquins. Il a lu mon livre. Il s'est levé. Il est allé voir Totote, sa femme. Et il lui a dit, écoute, j'ai trouvé qu'il allait avoir le prix Goncourt. Alors, il pensait avoir pas mal de pouvoir, qu'il avait quand même d'ailleurs parce qu'il était président du jury. Et il a certainement bien fait son travail. Il m'a fait un papier, un grand papier dans le Point, qui est paru en septembre, qui en a évidemment entraîné d'autres parce que ça a mis l'accent sur moi. Et j'ai eu la chance de voir des papiers, des beaux papiers sortir. Comme c'était mon premier livre, je ne me rendais pas compte à quel point c'était exceptionnel. Je ne perdais pas la tête au point de penser que j'avais écrit le plus beau livre de la Terre, certainement pas, mais j'ai accepté cette chance incroyable. Et je pense absolument pas que ma foi, il y ait eu des tractations de la part de Richard Ducousset ou Francis Esménard pour essayer d'aller influencer au minimum 5 membres du jury pour que j'aie le Goncourt. En fait, même, ça aurait dû être 6 s'il n'avait pas mis sa double voix. Vous voyez ?
pour la plupart, dans les jurés sont des gens très bien. Donc, si vous voulez, quand on parle des jurys, on peut pas désigner les jurys comme responsables, les membres des jurys comme responsables de tous les maux du système du livre. Eux, ils sont, voyez, Virginie Despentes entre au jury du Goncourt et pour vous, la sélection du Goncourt ne change pas la règle. Effectivement, la sélection du Goncourt ne change pas la donne.
Marion Mazory.
Je pense que vraiment, la vraie question, c'est pas les membres des jurys, c'est plutôt la concentration très française du monde du livre et du monde du livre qui maîtrise quand même les ficelles du marché du livre, pour autant que ça puisse être maîtrisé, dans un petit microcosme très très centralisé, fonctionnant sur une élite formée pour ça, qui vit entre elles. Et du coup, bah, ce système pyramidal finit, bah, comme tous les systèmes pyramidales, par créer du conservatisme et de la sclérose, et surtout profiter d'abord aux gens qui dirigent la chose, c'est-à-dire les grands éditeurs, ce qui ne veut pas dire ni que les jurés sont corrompus, ni que les grands éditeurs publient de mauvais livres, ou ne publient pas les grands écrivains. C'est pas ça du tout.
Bah, d'abord, c'est consanguin, l'édition. On est tous un peu parents les uns des autres. Il y a des relations sexuelles, anciennes, d'amitié... moins ancienne. Et puis, comment ça se passe? Ben, on se voit, on discute, on déjeune, et puis il y a des gens qui sont achetés, carrément. Moi, j'ai vu des gens se faire acheter. D'ailleurs, quand Astruc n'a pas eu son prix, il y a un juré qui était quand même un grand écrivain, un bon écrivain, qui était Antoine Blondin, qui a donné sa démission, fou de rage, parce qu'il avait vu que le prix avait été manipulé, et que c'était une sorte de fric. Je ne vais pas donner de détails, bon, peu importe. Donc, tout est possible. Il y a des gens aussi qui sont... J'ai vu des gens de certains jurys dire, ben voilà, vous voulez pas m'engager, ben moi je vais me faire engager ailleurs. C'est-à-dire qu'on achète un juré, on achète sa voix. Alors ça marche pas à tous les coups, parce que les gens sont pas idiots, on va pas, si vous êtes un juré conséquent, vous n'allez pas voter chaque année pour le même éditeur, vous ferez une fois sur deux, une fois sur trois, mais n'empêche que vous êtes quand même acheté. Alors il y a des gens, par exemple, Raymond Queneau était formidable, il disait, quoi qu'il arrive, je vote, il travaillait chez Gallimard, je vote Gallimard. Il votait pour n'importe quel bouquin chez Gallimard.
Moi, les écrivains trop sur deux, je trouve ça louche. On ne voit plus que ça à la télévision.
Ah bah oui, mais faut les comprendre, s'ils en font trop, c'est qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer.
Tu trouves? On s'en fout un peu de ce qu'ils ont à dire sur l'environnement ou la politique, non?
Non, je suis pas d'accord.
Et en plus, ils sont toujours beaux. Ça aussi, c'est louche.
Ça gâche pas le style, et puis c'est pas nouveau. Alexandre Jardin passait déjà à la télé dans les années 80.
Julien Gracq, lui, fuyait les caméras de télévision, et sa parole était d'or. Tu as lu La littérature à l'estomac?
Il était si laid que ça, Gracq?
L'équilibre du Goncourt, je prends le Goncourt parce que c'est le premier, hein, les autres sont l'imitation de ça. Si... Évidemment que pour que le prix ait un sens, il faut que l'académie qui la désigne est une autorité, soit reconnue comme... Donc quand il y a eu les époques d'accusations de corruption, c'était des jeux subtils pour trouver un équilibre entre une image... Ah oui, on défend son image. Les membres des jurys, ils y vont pas par philanthropie, hein. Ils y vont parce que se joue, être membre d'un prix littéraire, se joue quand même des jeux de confraternité littéraire, d'avantages divers, qui ne sont pas forcément des avantages marchands, hein, mais des avantages dans l'avancement d'une carrière. Puis le grand avantage aussi, c'est que les jurés, se cooptant entre eux, perpétuent l'idée qu'ils ont de la littérature. Alors l'idée qu'ils ont de la littérature, c'est la littérature qu'ils représentent eux-mêmes comme écrivains. Donc se perpétue la même idée d'une espèce de littérature moyenne. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que j'explique moi le fait que c'est pas des espaces d'avant où on va primer de l'avant-garde ou de la nouveauté. On est dans la perpétuation d'une espèce de fiction narrative moyenne au sens lisible par le plus grand nombre. C'est le but du prix.
Quand on vous annonce un prix, comme celui de la Société des gens de lettres, par exemple, quelle est votre réaction, Pierre Bergougnou?
Je crains de n'avoir pas de réaction. Ça n'est pas là mon souci. Il est peut-être réconfortant de s'entendre dire qu'on n'est pas seul au fin fond du désert et que ce que l'on a confié au papier a pu rencontré, suscité un certain écho, mais le vif de l'affaire se passe entre un certain nombre de choses sur le compte desquelles j'ai souhaité très tôt des éclaircissements et l'effort par lequel j'essaie d'obtenir d'elle qu'elle me dise simplement leur nom. Il faut s'éloigner apparemment du moins de la littérature et prendre en compte ce qu'on appelle les structures du système éducatif. Le niveau moyen de l'instruction générale en France, c'est le baccalauréat. 84% de la population accède à la dignité de bachelier. Il y a en France plus de 2 millions d'étudiants. Je reviens en arrière d'à peu près un siècle. En 1914, 1% de la population française accède au baccalauréat et il y a 10 000 étudiants. Un psychanalyste parisien qui s'appelait Jacques Lacan a publié en 1966 un recueil de ses articles précédé d'une préface à la première page de laquelle on lisait cette formule renversante. Le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Le ton et la teneur des publications automnales se déduit des attentes, c'est-à-dire des compétences, des capacités du lectorat moyen. C'est la littérature moyenne. Lorsque on s'écarte cette attente, on se condamne à n'écrire plus que pour un assez petit nombre de gens. Nous sommes des lecteurs, mais les structures de la distribution et du système éducatif condamnent toute une partie de la population à ne pouvoir lire de livres que ceux qui exploitent une formule déjà ancienne, scolaire, dirais-je. Ce sont des choses qui sont à peu près conformes à ce qu'on a appris au collège et au lycée, alors que la littérature effectivement contemporaine, celle de notre temps, a pour principe de prendre systématiquement le contre-pied, parce qu'elle est du présent, des attentes façonnées par le passé que la majorité du lectorat engage, importe dans l'acte de lecture. Ce doit être comme ça. Il ne se peut pas, compte tenu de l'état du monde que nous habitons, qu'il en aille autrement. C'est pour ça que je ne pleure pas sur la situation présente, parce que je la trouve revêtue d'un certain caractère de nécessité sociologique.
Quand on se bagarrait dans les premières années du prix, les polémiques, c'était pas corruption des jurés, c'était c'est pas un tel, c'est un tel, c'est pas la bonne esthétique, c'était des débats esthétiques, c'était des débats littéraires. Ça, c'est terminé. Donc, on est passé de la littérature au livre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le livre, qui est-ce qui est préoccupé de livre? L'éditeur et le libraire. Le Centre national des lettres, qui change de nom et qui s'appelle en 1993 le Centre national du livre, dit tout. On est dans la défense des professions qui permettent la circulation des marchandises livres dans la chaîne du livre. Donc on est quand même... Bon, on défend les écrivains quand même, on leur donne des bourses, etc. Mais on est quand même dans une réflexion sur le livre, sur un produit culturel, plus que sur une esthétique ou une littérature à défendre. Les débats ne sont pas littéraires. Et puis soyons clairs, c'est la valeur marchande qui corrobore maintenant et qui détermine et commande la valeur littéraire. On est dans des logiques de marchande d'industrie culturelle. Le livre est une industrie culturelle. Il y a une best-sellerisation de plus en plus apparente dans le champ éditorial. Elle est due peut-être justement à ça. On va créer du best-seller où on va le susciter. On voit bien comment les maisons ont chacun leur auteur phare, des auteurs qui vendent beaucoup et puis recherchent la best-sellerisation. Les prix littéraires, finalement, et la rentrée, c'est un phénomène parmi d'autres. Le but, c'est chercher à faire du bénéfice et à faire du best-seller, je crois, aujourd'hui, quand on est éditeur. Alors, je ne parle pas de tous les éditeurs. Il y a des petits éditeurs indépendants qui essayent d'avoir des positions différentes, qui ne soient pas dans cette... dans ce marché agressif, mais là aussi, c'est pas parce qu'on est un petit éditeur indépendant qu'on a forcément un catalogue génial.
Tu
Tu as enfin suivi mes conseils.
Oui.
Où vis-tu à présent ?
À Bobigny.
Diable, Bobigny ! Cela ne te fait pas trop loin ?
Ben, loin de quoi ?
Mais bien loin de chez nous, de ta maison, d'édition.
C'est pas vraiment la banlieue. Je ne vois pas le périphérique depuis ma tour, et puis il y a le métro. Je n'ai qu'un changement à Gare du Nord.
Gare du Nord ? Moi, je pensais plutôt à la rive droite, au pire, le 19e, voire le 20e. Tu n'as rien trouvé dans l'Est ?
Ben, je suis dans l'Est. Tu avais raison, j'avais besoin de me ressourcer.
Tu as pu te remettre au travail ? On attend ton manuscrit avec impatience. On a aiguisé les appétits avec ton précédent livre. Il faut enfoncer le clou avec le prochain.
J'ai pas vraiment eu le temps avec le déménagement, et puis... J'ai trouvé un travail dans une association. J'anime des ateliers d'écriture au Pont de Pierre.
Le Pont de Pierre ?
C'est un quartier de Bobigny.
Parfait. Tu ne fais pas trop d'heures, au moins.
17 heures par semaine, au SMIC.
C'est un bon compromis. Cela te laisse du temps pour écrire.
Le soir, je travaille quelques heures à la bougie.
Rien de tel pour écrire. Tu sais que Kafka adorait, lui aussi, écrire dans la pénombre.
Non, mais c'est un café à Bobigny, la bougie.
Et c'est très bien aussi, les bars. Tu sais que Verlaine y a composé ses plus beaux poèmes.
Que vous inspire, Sylvie Dicca, la composition de l'Académie Goncourt, qui a été quand même assez remaniée ces dernières années?
Ah oui, là, elle a beaucoup bougé. Bah, que vous dire, elle est assez maligne, cette Académie, puisqu'on a des... On voit l'entrée de Pivot, Bernard Pivot, à l'Académie Goncourt. Il y est rentré, et c'est une entorse sévère au statut. Ne doit rentrer à l'Académie que des écrivains. C'est pas un écrivain. C'est quelqu'un qui a été important, justement, dans la prescription du livre, par ses émissions littéraires géniales, mais ce n'est pas un écrivain. Donc c'est bien le signe, vous voyez, de ses préoccupations de professionnel du livre. Assouline, c'est pareil. C'est quand même beaucoup plus comme prescripteur et comme écrivain, à mon avis, qu'il a sa place à l'Académie Goncourt. Et puis on voit des personnes comme Rimbaud, Philippe Claudel, Decoing. C'est des gens qui ont des accointances fortes avec le monde du cinéma. On voit bien là aussi des logiques transmédiatiques se dessiner, c'est-à-dire que le livre n'existe plus seul. Il existe, c'est mieux si le livre peut devenir un scénario de film, etc. On voit beaucoup de livres comme ça devenir des films. Mais après, bon, il y a quand même une surreprésentation Gallimard. Voilà. On retrouve les grands éditeurs, et puis avec des auteurs qui ont plusieurs casquettes, qui sont dans plusieurs maisons. Voilà. Alors ne me demandez pas, Virginie Despentes, je n'ai pas compris encore ce qu'elle fait là. Mais c'est pour vous dire comme quoi, entre l'image que peut donner un écrivain et les réalités des tractations qui ont amené Virginie Despentes à rentrer à l'Académie Goncourt, il y a un monde, quoi. Hein, entre ce qu'on voit et les coulisses, voilà. Je pense que... bon, puis Schmitt, bon, voilà, c'est la grande littérature... Enfin, la grande littérature, je suis ironique. C'est la littérature, voilà, c'est certaine littérature grand public qui se vend bien. Donc, on peut se dire qu'il aura le flair pour choisir, lui, des auteurs qui vont dans ce sens-là.
Ce serait une catastrophe si je vendais 300 000 exemplaires. Je me tuerais. Je chercherais.
Vous n'êtes pas sincère.
Je parle du fond de mon cœur. Ce serait une catastrophe. Ça voudrait dire que je ne me suis pas tenu à la hauteur de la chose et que je préférais l'effet que je pouvais produire à l'espèce de différent que j'ai avec une poignée de dentiques mystères que j'aimerais bien dissiper avant de toucher la porte du fond.
Alors pourquoi le milieu littéraire, puisqu'il est, il est très heureux d'avoir un Pierre Bergoglio, pourquoi est-ce qu'il ne vous soutient pas davantage? Pourquoi est-ce que de temps en temps on ne porte pas votre œuvre plus à l'avant, Pierre Bergoglio?
Mais parce que ce serait parfaitement inutile. Parce que la nature objective des faits tels que j'ai essayé de vous l'exposer s'y oppose de toutes les façons. Je pense que les gens qui font métier d'imprimer des livres ont une sorte de science pratique de ce qui se passe, qui les fait agir à bon escient, c'est-à-dire porter leur effort, leur attention sur des produits, je vais prononcer ce mot que j'ai en haine, dont ils savent qu'ils trouveront preneur sur le large marché que constitue un lectorat doté des capacités et des compétences que sanctionne le baccalauréat. Tandis que, aux marges du système éditorial de petites maisons, je pense bien évidemment aux éditions de Minuit, qui ont un caractère emblématique, et avec les pires difficultés matérielles, financières, entretiennent le feu sacré. Il y a quelques vestales du monde éditorial. Bon, c'était une figure immense que celle de Jérôme Lindon, qui décide, en l'espace d'une fraction de seconde, qu'il faut de toute urgence mettre sous la presse le dactylogramme que lui a remis à la fin des années 40 un certain Samuel Beckett, qui avait déjà essuyé, j'exagère peut-être, mais pas tellement, une trentaine de refus. Et si je suis rétrospectivement troublé, c'est que personne en France, aucun éditeur, n'ait compris immédiatement que le texte de ce temps était justement celui qui était en train de barbouiller le grand Sam, lequel étant non seulement un esprit du premier rang, mais un cœur généreux, est rentré catastrophé chez lui pour confier à son épouse Suzanne Deschevaux Beckett qu'il était bien malheureux parce qu'il allait finir de ruiner ce pauvre Jérôme Lindon. Ça fait partie de ces choses qui me réchauffent prodigieusement le cœur.
Oui.
Et depuis, vous avez quitté Albin Michel donc pour Stock, mais vous n'êtes plus dans la rentrée littéraire, Pascal Rose.
Ah oui, alors ça c'est vraiment quelque chose. Je ne suis jamais dans la rentrée littéraire parce que comme j'ai déjà eu un prix, et notamment le prix Goncourt, je n'intéresse pas la sortie de septembre où en général on cherche avant tout à savoir qui va se retrouver en novembre sur la liste des prix. Donc j'en suis privée et parfois, je trouve que c'est une mauvaise chose, parce qu'à ce moment-là, il y a une grande excitation, d'une part, un focus qui est mis sur la littérature, et d'autre part, dans les maisons d'édition, il y a un acharnement à essayer de présenter les auteurs. On invite, par exemple, moi je me souviens pour Chasseur Zéro, tous les libraires qui ont été invités, je sais pas, à déjeuner dans les grands salons d'Albin Michel, et puis on présentait tous les auteurs. C'était une sorte de grande fête. Les libraires pouvaient m'entendre, parler avec moi. Et depuis le Chasseur Zéro, c'est-à-dire depuis 20 ans, je suis privée de ça. Donc les libraires me connaissent à peine. Voilà.
Vous avez le sentiment, des fois, d'avoir été oublié. Il y a un peu de ça dans vos propos, Pascal Rose.
Oublié de certaines personnes, sans doute. Oui, mais je sais que ça peut toujours revenir, que c'est le jeu. Et puis, il y en a dont je n'ai pas été oubliée. Ça, c'est bien.
Vous n'en souffrez pas, en tous les cas.
Je pense que quand j'ai quitté Albin Michel, j'en souffrais. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Peur que d'être sur la pente descendante, que je ne réussirais pas à remonter, que donc les ventes baissant, je ne sois plus suivie par l'éditeur, je ne reçoive plus d'avaloir, je ne sois plus... Donc maintenant, j'essaye de me dire, il faudrait oublier que j'ai eu le prix Goncourt et que ce soit simplement... Parce que je suis un écrivain.
La rentrée à tout prix, avec Marie-Rose Guarnieri, Françoise Nissen, Sylvie Ducas, Marion Mazoric, Pascal Rose, Raphaël Sorin et Pierre Bergougnou. Lecture, Olivier Appert. Merci à Thierry Boisé. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Guillaume Baldi.
LSD. La série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez nous éditer, bibliographie, lien, nous podcaster pour la rentrée ou nous réécouter chez Drouan, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez toujours nous trouver sur Facebook et sur Twitter. Et demain, deuxième chapitre de ces rediffusions, lecteurs, le nouveau jury.